J'aimerais aujourd'hui vous parler de culture. Là, normalement, vous commencez déjà à avoir peur, hein? Tout groupe social, quel qu'il soit, possède une culture, et l'Église locale n'échappe pas à la règle. Alors, si je devais exprimer de quoi et en quoi est constituée une culture, je dirais qu'elle est faite des valeurs exprimées ou non qui animent le groupe en question. La culture est ce qui se ressent, se voit, s'appréhende lorsqu'on entre en interaction avec les membres du groupe. Un homme s'est un jour rendu au culte dans une église et a remarqué que l'homme assis à côté de lui portait des pantoufles Homer Simpson. Il s'est immédiatement dit que cette église serait la sienne dorénavant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si l'église en question admettait ce genre de personnes avec ce genre de pantoufles, cela signifiait qu'un des éléments de la culture de cette église était l'acceptation. Cela n'était indiqué nulle part sur les murs de la salle de culte, mais cela se voyait et cela se ressentait. C'est pour cette raison que je disais en commençant que la culture peut être exprimée ou non. Sans que personne n'en parle, on sait donc dans quel genre d'endroit l'on se trouve et l'on discerne très vite les codes de la culture ambiante. Enfin, on discerne ou pas. En fait, la culture étant largement invisible, nous sommes pour la plupart ignorants du sol culturel que nous vivons et que nous avons créé dans nos églises. La culture est tellement enracinée qu'elle en devient totalement imperceptible aux yeux des membres de l'organisation. C'est la raison pour laquelle il est si difficile pour les membres d'un groupe de parler de leur culture, de ce qui les anime, puisque cela s'opère, pardon, souvent à un niveau en deçà de leur conscience. Je me rappelle, j'étais dans une église précédemment, il y a quelques années de ça, et j'avais demandé à un jeune de présider le temps de Sainte-Seine, un jeune de l'église. Alors il l'avait fait, mais sans doute lié au stress, il avait inversé le pain et le vin. Il avait commencé par le vin et puis le pain. Bon, ce n'était pas dramatique non plus, hein. Mais à la fin du culte, après le culte, un vieux frère de l'église avec un fort accent du terroir est venu vers moi pour me dire: c'est une honte! Il a inversé les symboles et en plus, il n'a pas couvert les éléments de la scène avec le napperon à la fin. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi on couvre le pain et le vin à la fin de la scène par un napperon? Et il m'a dit, non, mais c'est sûrement très important quand même. Donc, il tenait à certains symboles, il tenait à certaines pratiques, il tenait à certaines valeurs exprimées, mais en avait perdu ou n'en connaissait tout simplement pas le sens profond. Ce qui veut dire que toutes les églises, on va revenir aux églises, puisque les églises sont des groupes sociaux, toutes les églises ont une culture, des valeurs communes ou tacites. Certaines, et c'est normal, s'attend à ça tout de même, affichent celle de l'Évangile, l'amour, l'accueil, le non-jugement, la miséricorde, le pardon, mais à l'analyse, bien un peu le vivent véritablement, profondément. On peut donc être convaincu de propager la bonne culture tout en vivant une autre dans les faits. Alors notre Église aussi tente d'instaurer une culture reposant sur des valeurs. Il m'a paru important dès lors d'enseigner à nouveau ces valeurs afin qu'on se rende compte du chemin parcouru ou pas par chacun d'entre nous en vue de vivre ces valeurs qui sont bien entendu des valeurs de l'Évangile. Et de ce qu'il reste peut-être aussi à faire, et je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot qui reste à faire. Et puis pour ceux qui sont des nôtres depuis peu, cela leur permettra de voir, savoir exactement où ils sont tombés. Notre Église, après réflexion, a répertorié six valeurs centrales qui lui tenaient à cœur et qui constituent donc son ADN. C'est les six valeurs qui constituent l'ADN de notre Église. L'Église à côté en a peut-être d'autres. Tout ceci n'a donc rien de théorique. L'important, c'est de le développer et de le vivre, d'essayer de le vivre. Alors la première de ces valeurs, c'est l'intégrité. Et cette valeur peut être exprimée par cette petite phrase: Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Elmer Gantry, si vous préférez. Elmer Gantry est un personnage fictif, mais le personnage principal d'un film des années 60, interprété par le grand, l'immense Burt Lancaster, pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique. Elmer, dans le film, est un prédicateur de l'Évangile, un prédicateur itinérant. Il tourne dans tous les États-Unis pour prêcher l'Évangile sous des tentes. Et des dizaines et des dizaines de personnes se convertissent suite à la proclamation de cet Évangile. C'est un homme qui a une puissance oratoire incroyable. Sa réputation ne cesse de grandir à travers les États-Unis et finit par être telle qu'un journaliste d'un grand journal décide de le suivre, de suivre Elmer, dans tous ses déplacements au travers des États-Unis. En bon journaliste, puisqu'il le suit partout, celui-ci remarque très vite qu'une fois les rencontres terminées, une fois sorti de la tente, Elmer s'en va courir les filles, se saouler et jouer aux cartes. Et il joue d'ailleurs très bien aux cartes. Intrigué par ce comportement, ce grand écart entre ce qu'il dit et ce qu'il vit, ce journaliste, pas chrétien dans le film, finit par lui demander « Mais croyez-vous vraiment à ce que vous dites quand vous prêchez ?» Et après un temps de réflexion, Elmer a répondu « Quand je prêche, oui. » Il faut que je répète ou c'est clair pour tout le monde? Parce qu'il y a des têtes interrogatives. La chute, c'était là, les cocos, voilà. Il n'y a plus rien qui vient après. Encore un effet raté. Bon, j'ai noté ça pour la prochaine fois. Non. Donc, on ne peut pas dire que cet homme, que notre homme est beaucoup tenté de vivre le message qu'il prêchait aux autres. Malgré toutes les belles paroles qu'il dispensait, qu'y a-t-il de plus beau que l'Évangile, il n'y avait aucun changement en lui. Ça me rappelle une autre anecdote. Ça, ce n'est pas du cinéma, ça s'est vraiment passé. Un pasteur est attendu en Hollande pour animer, pour enseigner lors de conférences organisées par les églises de Hollande. Il ne parle d'ailleurs pas un mot d'hollandais, il compte bien entendu enseigner en anglais. Mais voilà, il est en voiture, il a loué une voiture et il est perdu, totalement perdu dans Rotterdam. À un moment, désespérant, il dit « Bon, ben, je vais m'arrêter, je vais demander mon chemin. » Il arrête un passant, il baisse son carreau, il dit « Voilà, en anglais, je cherche tel endroit, tel centre de conférence. » Et le gars commence à lui expliquer. Il dit ben, « C'est très simple, vous allez tout droit, premier rond-point, vous prenez à droite, puis vous allez arriver à un carrefour. Et là, vous suivez les panneaux indicateurs, mais en hollandais, ça se dit « prédicant ». Vous suivez le « prédicant », donc le prédicateur, jusqu'au prochain rond-point. Là, vous avez un autre prédicateur, un autre panneau de signalisation, et vous prenez à droite, etc. Et là, le pasteur est quand même fort interpellé. Il dit, mais vous appelez les potents indicateurs en Hollande du nom de prédicateur? Il dit, comment ça se fait? Il dit, ben, les panneaux routiers sont comme les prédicateurs. Ils montent le chemin, mais ils ne bougeront pas d'un millimètre sur ce chemin. Ils ne font que l'indiquer, ils ne le vivent pas. Je rappelle que la Hollande est un pays protestant. Donc ça fait un peu peur. Mais de là, encore une fois, l'affirmation que la distance peut être énorme entre ce que nous disons, nos valeurs affirmées et ce que nous vivons. C'était déjà, et ça doit nous faire réfléchir, je pense, c'était déjà la grande crainte, voudrais-je dire la peur de l'apôtre Paul, n'être qu'un homme qui parle, qui connaît bien la théorie, mais ne vit pas ce qu'il enseigne. On va prendre la première aux Corinthiens. Il s'adresse donc aux chrétiens de Corinthe, qui avaient quelques soucis, hein, rappelez-vous. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, demandez aux Belges, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. À l'époque, la couronne de laurier, hein. C'était votre récompense, vous ne parlez pas encore de médaille. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, et c'est là l'important, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. La référence aux athlètes de l'époque est très claire. C'est que dans la vie spirituelle aussi, penser qu'on va devenir ce que Dieu veut qu'on devienne sans y consacrer toute notre énergie et toute notre existence, on se leurre. Ça demande de l'implication. afin de pouvoir vivre justement ce que nous prêchons, ce que nous disons, ce que nous partageons avec les autres. Et quand c'est Paul qui le dit, enfin c'est Paul quoi, je ne veux pas idéaliser Paul, mais c'est quand même, enfin dans l'histoire de l'Église, Paul c'est quand même, c'est pas un petit truc. Hein. Et l'un lui dit, moi, je, et à d'autres endroits il dira, moi je ne dis même pas que je suis déjà arrivé. Hein. Alors que là il est quasi la fin de sa vie, tu te dis, ben, si lui n'est pas arrivé, mais qui arrivera? Mais c'est pour nous encourager hein, justement à être conséquents par rapport à l'appel que Dieu a posé sur nos vies. Donc Paul avait bien compris que sa vie toute entière devait parler, s'adresser aux autres, comme un témoignage vivant de la transformation opérée par le Saint-Esprit en lui. Et que cela allait donc demander une consécration totale à Dieu, une réorientation absolue de sa vie vers ce but de transformation. Alors, relisons avec force que c'est là le message central de l'Évangile, hein, et la grande promesse de Dieu. Vous changerez. Le mot repentance en grec, métanoïa, signifie d'ailleurs littéralement changer de mentalité, changer d'intention. Et quant au mot conversion, épistrophé dans le grec, qui signifie se tourner vers Dieu, faire un demi-tour, revenir vers lui. Ce qui veut dire que pour changer véritablement de vie, il faut changer tout court, devenir la nouvelle version de nous-mêmes. 2 Corinthiens 5, 17, toujours Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour qu'elles deviennent véritablement nouvelles, il va falloir travailler main dans la main avec l'Esprit Saint pour que ce changement soit opérant et effectif. Nous sommes donc appelés à changer totalement de logiciel. Et ça, je pense que vous en doutez, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et c'est pour cette raison qu'il nous a donné l'agent de ce changement. La seule chose qui peut nous transformer, le Saint-Esprit. Alors nous devrions tous avoir envie de changer. D'ailleurs, cette douleur récurrente qui nous pince parfois le cœur quand nous ne sommes pas ou avons échoué à être ce que Dieu nous appelle à devenir, est produite par notre désir de changement. Elle ne vient pas de nulle part, cette douleur, cette tristesse. Même si nous avons souvent du mal à l'identifier comme telle, c'est le Saint-Esprit qui vous fait ressentir. Autrement, je vous le dis, vous n'en aurez rien à faire de ne pas être encore ce que Dieu veut que vous soyez. Si vous ressentez un malaise par rapport à l'écart qui existe encore entre ce que vous êtes, la vie que vous menez et ce qu'il demande que vous soyez, ben ce mal-être est produit par l'Esprit et par votre désir de faire ce que Dieu veut faire en vous. C'est donc une bonne nouvelle. Pas de rester dans la tristesse, mais d'être triste de temps en temps en disant « je suis vraiment une cloche, quoi. » Enfin, vous utiliserez pour vous-même le vocable que vous voulez. Cloche et un copyright dessus, c'est mon mot à moi. I am a cloche. En fait, mes amis, ce sentiment de déception n'est pas vraiment le problème, mais le reflet donc d'un autre plus profond, mon échec temporaire à être la personne que Dieu avait à l'esprit quand il m'a créé. C'est profondément imbriqué, intriqué, installé en nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage, les plus anciens d'entre nous s'en rappelleront sans doute. Popeye. Alors, il y a une chose en particulier dont je me souviens. Ce n'est pas les épinards. Hein. Ça ne m'a jamais aidé à manger les épinards. Ma mère employait Popeye. Oui, mais Popeye, là, non, moi, je n'ai pas envie de ressembler à Popeye, je ne mangerai pas d'épinards. Alors, ce dont je me souviens, c'est que chaque fois que Popeye échouait à faire quelque chose, ou qu'il était frustré, ou se sentait frustré, ou inutile, ou incapable, ça vous fait penser à quelqu'un? Il disait simplement « I am what I am ». Je suis ce que je suis. Alors, nous savons tous que Popeye n'était pas un gars très éduqué. Il n'était pas conscient de sa réalité intérieure. Il avait passé 20 ans sur le divan d'un psy et encore moins conscient des troubles intérieurs produits par son âme. Il n'était qu'un simple marin, fumeur de pipe et mangeur d'épinards et accessoirement amoureux, fou d'olives. Il ne pouvait pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, il n'était pas Elmer Gantry, il était simplement quelqu'un, je suis ce que je suis. Mais que de tristesse dans cette expression, mes amis. Quel manque d'espérance dans cette expression. Cela ne laisse en tout cas pas beaucoup de marge de manœuvre pour devenir, ce que l'on n'est pas. C'est comme si Popeye nous disait, bon voilà, vous fréquentez, mais n'ayez pas trop d'espoir, n'attendez pas trop de choses de moi, je suis ce que je suis. Alors j'en ai connu des Popeye, oui, parce qu'il n'y en a pas qu'un, et j'en connais encore, et j'en suis parfois un moi-même. Je suis ce que je suis, c'est le cri de désespoir de la race humaine. Vous avez déjà prononcé cette parole, moi j'en suis sûr, et je l'ai déjà prononcée aussi. C'est le combat qui fait rage entre la déception d'être encore ce que nous sommes et l'espérance de devenir ce que nous sommes appelés à être. Dans cet intervalle, nous sommes tous des Popeye, souvent. La bonne nouvelle que Jésus a prêchée n'avait donc rien à voir avec les exigences minimales requise pour aller au paradis après la mort, parce que c'est quand même encore ça qu'ont à l'esprit beaucoup de personnes se disant chrétiennes aujourd'hui. C'est parfois aussi, en gros, le message qu'on enseigne dans beaucoup d'églises ou dans certaines églises. La bonne nouvelle concerne au contraire la glorieuse rédemption de la vie humaine, la transformation profonde de la vie des êtres. Votre vie, ma vie. Et il est donc temps de se laisser transformer afin que notre vie soit une bonne nouvelle pour nous, afin qu'elle le devienne pour les autres. Parce que soyons clairs, si votre bonne nouvelle à vous ne l'est pas pour votre propre vie personnelle, si ce que vous vivez n'a absolument aucun intérêt et ne transforme rien du tout, vous n'allez forcément pas avoir envie de partager ce quelque chose, parce que ce quelque chose n'a absolument aucun intérêt. Il faut donc être un petit peu égoïste au départ par rapport à ça. Avoir envie de changer pour soi déjà, parce que la situation d'avant devient intolérable. Un autre exemple. Et là, on va toucher à la notion de culture, hein, que je n'ai pas oublié, rassurez-vous, on va y revenir. J'ai connu quelqu'un qui passait son temps à juger les autres. Alors, je ne citerai pas le nom de cette personne, que j'ai perdu de vue depuis bien longtemps, mais qui faisait partie d'une des églises où j'étais précédemment. Et ce quelqu'un passait son temps à juger les autres. Alors, je ne dis pas ça pour stigmatiser cette personne, mais bien pour dire que c'est un danger que nous encourons tous. C'est ce qui vient le plus facilement, c'est juger les autres. Rappelez-vous ma définition du jugement. Quand on juge quelqu'un, en fait, on lui reproche simplement de ne pas être soi. C'est ça le jugement. Cette personne ne ratait jamais aucun culte, ça c'est très bien. Mais il ronchonnait sur tout. N'était jamais d'accord avec rien. Sa langue maternelle était la complainte. Et en repensant à cette personne, je me suis demandé si je m'étais jamais attendu à ce qu'elle change. C'est quand même le désir profond et secret de la vocation pastorale. C'est que ce que vous faites change quelque chose. Je pense que Dieu casse vite le jouet. Très très vite. Puisque c'est lui qui change les choses. Mais je ne m'attendais plus à ce que cette personne change. Puisqu'elle était comme elle était. Popeye. Je suis ce que je suis, quoi. Alors cette personne était, je ne l'avais pas connu à l'époque, mais certainement un jeune homme pas sympa, et il est devenu un vieil homme pas sympa. Pourtant, il est anormal, et là je le replace dans la responsabilité des responsables d'église de l'époque, pourtant il est anormal que nous n'ayons pas organisé de réunion de prière d'urgence pour prier pour cet homme, parce que c'était une calamité ambulante. On aurait dû prier Dieu pour lui. Il est anormal que nous soyons habitués à cette situation, d'avoir l'antithèse de l'Évangile parmi nous. En fait, on a agi comme si de rien n'était, comme si c'était normal de fonctionner comme ça, et en se disant surtout, bon, lui, il ne changera jamais, quoi. Comprenez-moi bien, cette personne avait de bonnes connaissances bibliques et priait certainement tous les jours. Mais personne n'espérait plus qu'elle puisse progressivement devenir semblable à Jésus. Mais c'était un drame. Je parle pour l'Église, pour les responsables, pour tout le monde. C'est un drame. Et surtout pour la personne d'abord. Et comme nous ne nous y attendions pas non plus, personne ne fut choqué que rien ne change. En fait, c'est même pire que ça. Je dois bien avouer que j'aurais été étonné si cette personne avait changé. J'aurais été surpris alors que j'aurais dû simplement accueillir ce changement s'il s'était produit comme une évidence de la vie de Dieu en lui. Alors la plupart d'entre nous veulent changer, ça j'en suis sûr. Veulent devenir toujours plus comme Jésus, veulent devenir la nouvelle version d'eux-mêmes. Mais la question se pose, est-ce que ça se produit vraiment? D'après un sondage Gallup, un institut américain de sondage très connu, 9 Américains sur 10 disent prier quotidiennement. 9 sur 10. Pas mal, hein? Et 84 millions, plus ou moins un tiers de la population, disent avoir reconnu le Christ comme leur sauveur. Ça donne envie, hein? Oui, mais... William Iverson, un sociologue chrétien, dit « 500 grammes de viande devraient être affectées si on verse dessus 125 grammes de sel, donc le quart. » S'il y avait vraiment 84 millions d'Américains qui avaient le Christ en eux et qui étaient en cours de transformation, leur présence dans la société américaine devrait avoir le même effet sur la société dite américaine que le fait de mettre un quart de sel sur un steak. Ça ferait une solide différence, en fait. Mais il se pose la question, où sont les effets dont parle Jésus? Il n'en voit pas. Où est le changement que devraient apporter les enfants de Dieu que nous sommes? Où est le goût du sel, en fait? Alors, il est clair que cet état de choses n'est pas le plan de Dieu pour sa communauté. C.S. Lewis, un autre grand bonhomme, un apologète, lui, ancien prof à Oxford, en Angleterre, dont probablement un des meilleurs profs au monde, hein, vous savez qu'Oxford et Cambridge sont les meilleures universités du monde. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Disait ceci, et je trouve cette phrase extraordinaire, « Comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des châteaux de sable dans la boue, parce qu'il ne peut pas imaginer ce que cela signifie que de se voir offrir des vacances à la mer, nous sommes bien trop vite satisfaits. » Les enfants qui sont concentrés sur leur jeu, là, ils ne voient pas la plage. Ils ne voient pas la mer. Ils ne sont même pas conscients qu'ils auront encore 2 semaines à passer, 3 semaines à passer en dehors de leur jeu. Ils passent leur temps dans la boue, dans les châteaux de sable, et ils perdent de vue la grande perspective qui les entoure. Je pense que c'est lui sa raison. Notre problème réel pourrait donc être bien que nous sommes trop vite satisfaits de nous, de notre vie, de notre transformation éventuelle. Ce qui a comme conséquence que nous finissions parfois par changer, mais en pire. Car le danger, c'est de tomber dans ce que certains appellent la pseudo-transformation. J'ai expliqué ce thème. Soit, pour faire simple, soit on se laisse transformer par l'esprit, soit on va se transformer soi-même, en utilisant des artifices, religieux en l'occurrence. Et croyez-moi, il n'y a pas 3 chemins, il y a 2 chemins. Et si on ne prend pas l'un, on va se retrouver très vite, parfois à son corps défendant, mais très vite sur l'autre. En quoi cela consiste-t-il, cette pseudo-transformation? C'est là que nous allons retrouver en plein notre notion de culture. Nous savons tous que nous avons été appelés hors du monde. C'est ce que Jésus dit en Jean 17. Mais que nous devons malgré tout faire une différence dans le monde. Nous ne sommes plus du monde, mais Jésus nous y a laissés pour y accomplir une tâche, à savoir prolonger son incarnation et être pour le monde ce que lui était pour ce monde quand il était présent. C'est ça la fonction de l'Église. Pour ce faire, et pour faire rapide, nous devons aimer mieux, aimer plus, amener plus de joie et d'amour dans ce monde, plus de miséricorde, plus de compréhension, plus de réconciliation, plus de salut, plus de Dieu dans ce monde à travers nous. Ça, c'est notre boulot. Mais si nous n'y arrivons pas, nous allons inévitablement soit envoyer tout promener, ça ne fonctionne pas, soit assurer le service minimum chrétien, je occulte de temps en temps, mais notre vie et celle des autres restera inchangée. Ou alors, nous allons rechercher des moyens de substitution afin de nous distinguer quand même un petit peu de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Il faut quand même qu'on voit une différence. Mais ce ne sera pas une différence dans notre qualité d'amour, ce sera une différence dans des expressions extérieures de la foi. Il est terriblement important de prendre conscience de ce processus. Parce qu'il est lié profondément à notre ancienne nature. C'est cette ancienne nature qui produit du religieux, et il faut faire attention. J'ai souvent dit, en surprenant beaucoup de monde, l'évangile, ce n'est pas de la morale, l'évangile, ce n'est pas de la religion. L'évangile, c'est de la vie, c'est la vie de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas changés de l'intérieur, par le Saint-Esprit, progressivement, mais de fond en comble, si nous ne nous transformons pas sous la direction de celui qui est en nous, nous serons tentés de trouver des méthodes extérieures afin de satisfaire notre besoin de nous sentir différents de ceux qui sont en dehors de la foi. Si nous ne pouvons pas être transformés, nous opterons pour l'information et la conformité au groupe social. Accumuler de la connaissance et se conformer aux us et coutumes de notre environnement religieux. C'est de la culture. Alors, ne soyez pas surpris, ce processus était déjà à l'œuvre au 1er siècle de notre ère dans l'Église primitive, puisque eux aussi avaient encore une ancienne nature. Quand on vous posait la question, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de l'Église et quand vous voyez les glissements théologiques et les glissements de vie de l'Église relativement vite après la mort des apôtres, si vous vous dites, mais comment c'est possible? Ben, c'était des hommes et des femmes qui ne se soumettaient pas à l'Esprit, donc ils ont commencé à adopter certains types de comportements. James Dunn, un théologien britannique bien connu dans le milieu protestant, fait remarquer, et c'est intéressant par rapport à ce dont nous sommes en train de parler, fait remarquer qu'une très grande partie des écrits rabbiniques, donc des rabbins juifs du 1er siècle, de la période de Jésus, portaient, c'est intéressant, leurs travaux portaient sur la circoncision, les lois alimentaires et le respect du sabbat. C'est surprenant pour la simple et bonne raison que si vous avez eu l'occasion de rencontrer ces rabbins à l'époque, et vous leur avez posé cette simple question qu'on a souvent posée à Jésus, quel est le plus grand commandement? Quel est le centre de la loi de Moïse? Quel est le centre de la loi que Dieu a donnée aux hommes? Ils vous auraient dit, mais Deutéronome 6. Écoute, Israël, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça le centre. Et ce n'est pas ça qui animait leur vie, ni leurs discussions, ni leurs écrits théologiques. Ils avaient commencé à plancher sur des facteurs extérieurs de la foi. Donc, pourquoi aller mettre l'accent sur ces pratiques? Le sabbat, c'est important, d'accord, mais c'est extérieur. À quoi sert ton sabbat si intérieurement tu vis rien avec Dieu, quoi? Et si tu ne te soumets pas à ce qu'il te dit? Pourquoi mettre l'accent sur ces pratiques extérieures? Ben, la réponse à cette question implique ce qu'on appelle, en langage sociologique, des marqueurs identitaires. Des marqueurs identitaires. Les groupes ont une tendance à être exclusifs, voire exclusoires. T'es pas comme moi, je te vire. Les gens du dedans veulent à ce moment-là se séparer des gens du dehors. Et c'est pour cette raison qu'ils adoptent donc des marqueurs identitaires qui puissent les différencier de ceux du dehors. Alors, ces marqueurs sont souvent hautement visibles, c'est le principe, et donc perceptibles. Les pharisiens du temps de Jésus ne pouvaient pas passer à côté, même vestimentairement parlant, ils étaient repérables. Ces marqueurs identitaires existent aussi dans la société païenne de l'époque, grecque ou romaine. J'ai expliqué ça mardi, je pense, en passant très vite, sans doute, trop vite. Les prostituées pouvaient être prostituées, mais elles devaient, vestimentairement parlant, pas porter de voile, avoir les cheveux courts, etc. Les hommes efféminés qui servaient à la prostitution masculine dans les temples à mystère grec, il devait avoir les cheveux longs. Ouh. Heureusement que je ne suis pas au 1er siècle. J'aurais dû couvrir mes arrières, soit. Mais tout ça marque justement que les gens se différenciaient les uns les autres par des marqueurs identitaires visibles excessivement forts. Mais tout ça revêtait d'un vernis des pratiques extraordinairement superficielles. Alors, je cite certains de ces marqueurs, ils sont intemporels, ils traversent l'histoire du monde. Le vocabulaire, oh mon Dieu, il employait telle formulation. Le code vestimentaire, il est pasteur, il n'a pas de cravate. Quand je mets une cravate, je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand je suis à période à cravate, c'est parce que Yves a décidé de mettre des cravates. J'avais envie de mettre des cravates. Quand je ne mets plus de cravate, c'est parce que Yves n'avait pas envie de mettre de cravate. C'est aussi bête que ça. Hein? Et moi, toujours conduit par l'Esprit Saint, évidemment. Mets une cravate, Yves! Ne mets pas de cravate, Yves! Bon, je plaisante. Hein? Donc, n'y a pas chercher autre chose que ça. J'aime parfois des cravates, parfois, je n'ai pas envie d'en mettre. Voilà. Donc, mais le code vestimentaire, forcément, va être terriblement important. Et vous allez vous adapter. Si vous venez en t-shirt, en jeans, et dans une église le dimanche matin, et qu'après un certain temps, vous remarquez quand même que la norme, c'est plutôt le costard, soit vous allez vous tirer en courant, soit vous allez vous dire oh, « Mon Dieu, il faut que j'achète un costume. » Mais vous n'allez pas vous adapter à l'esprit, là. Vous allez vous adapter au conditionnement local, aux marqueurs identitaires locaux. Alors, il y a aussi le style de personne, donc, qui rentre en ligne de compte. Alors, tout ça n'a qu'un objectif, même s'il est tacite, distinguer ceux qui font partie du groupe de ceux qui n'en font pas partie. On trouve ces marqueurs, je l'ai dit, dans quasi tous les groupes sociaux, y compris de nombreuses églises. Alors, je vais me faire plaisir, on va passer en revue quelques petits trucs. Dans les années 60, vous auriez pu repérer un adepte du mouvement hippie à la longueur de ses cheveux et à son style vestimentaire. Voilà. Voilà. Regardez, je ne suis pas un hippie. D'accord ? Non, mais c'est important de le rappeler quand même. Idem concernant, toujours dans les années 60, mais en Angleterre cette fois, là où tout a été inventé musicalement, comme ça je l'ai dit, les Mods, longue redingote, style parka, costume de pièces à revers droit, Vespa et majoritairement musique des Who, l'immense groupe de rock. À la même époque, hein, ils se battaient d'ailleurs tous les ans à Brighton sur la plage, les rockers, eux, c'était cheveux gominés, blouson de cuir perfecto, jeans et gros cylindrés, marqueurs identitaires. Alors, je pourrais, vous en doutez, multiplier les exemples. Les fermiers, les politiciens, les rockstars ont tous leur propre façon de se distinguer de ceux qui ne font pas partie de leur confrérie. Donc, avec cela à l'esprit, les raisons de l'importance accordée à la circoncision, aux lois alimentaires, ou à la stricte observance du sabbat deviennent parfaitement claires. C'était les marqueurs identitaires juifs de l'époque. Très visibles, relativement superficiels dans leur pratique, mais permettant aux gens de distinguer qui faisait partie de la famille de Dieu à l'époque ou pas, qui faisait partie des bons ou pas. Écoutons l'un des reproches que Jésus fait justement aux pharisiens, dont le nom, je le précise, vient de l'araméen perisha et qui signifie séparé. Plus clair que ça, c'est difficile. Ils se séparaient. Mais se séparaient de quoi ? De tous ceux qui n'étaient pas pharisiens. Voilà ce que Jésus leur dit. Ce chapitre est merveilleux, sauf si vous êtes pharisiens. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait les interprètes de Moïse. Ils enseignent la loi de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le don et respectez-le. Parce que ce qu'ils disent, c'est la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Mais, n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils disent, c'est le mergantrie, nouvelle formule, ils disent, mais ne vivent pas ce qu'ils disent. Et Jésus dit donc, écoutez ce qu'ils disent, parce que ça, c'est la loi, mais ne faites surtout pas l'application qu'ils font de la loi, parce que ça, ce n'est pas la bonne route. Et il va donner un exemple qui est terrible, hein, mais c'est encore aujourd'hui comme ça. L'esprit pharisianique, cet esprit identitaire, il existe encore aujourd'hui. Ne croyez surtout pas qu'il a disparu avec la mort du dernier pharisien. Même en Israël, ça existe encore, les pharisiens. Cet esprit peut habiter les églises aussi. Jésus va donner l'exemple type qui peut vous faire comprendre que vous êtes dans ce genre d'environnement. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Autrement dit, ils imposent des choses aux gens et ils sont incapables eux-mêmes de l'assumer. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges, etc. Ils se promènent avec des longues robes. Les phylactères, c'est une application, encore une fois, démentielle du Deutéronome, hein, où Dieu dira « tu liras ». Tu liras les versets de la Torah, de la loi, à tes mains et à ton front. Autrement dit, tu auras la loi de Dieu dans ton esprit, ou ton cœur, ce sont des synonymes en hébreu, et tes mains seront liées par ces versets, parce que tes actions devront découler dans la pratique de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Donc il n'y a pas de distinguo entre ce que tu penses et ce que tu vis. Tu dois être en adéquation à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Donc ils ont dit, vivez ce que je mets en vous. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Encore aujourd'hui, allez, dans les milieux juifs stricts, ils ont mis des petites boîtes avec des parchemins sur lesquels ils ont indiqué des versets bibliques de la Torah, et ils les mettent sur leur front, et ils les nouent à leurs bras et à leurs mains. Voilà. Et parce qu'ils font ça, ils disent, je suis déjà bon, je fais ça, et les autres ne le font pas. Quelle chance qu'on n'est pas juif. Hein. Moi, je ne me verrais absolument pas avec un truc sur mon front. Non, mais vraiment, non. Non, ça ne pourrait pas. Merci Seigneur. Ils disent, dit Jésus, ils disent, ne font pas. Ils disent, ne font pas. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu et doivent donc se faire remarquer, si je puis dire, d'une autre manière. Se distinguer, se différencier d'une autre manière. Alors, il est évident, vous l'aurez compris, que le pire dans ce type de fonctionnement, c'est que les gens de l'intérieur, qui sont supposés connaître Dieu, deviennent des instruments de jugement envers ceux de l'extérieur. Pourtant, et je pense qu'il faut vraiment rappeler ça, parce que malheureusement, il faut le rappeler, nous n'avons pas été laissés dans le monde, nous qui ne sommes plus du monde, puisque nous appartenons à Jésus. Nous n'avons pas été laissés ici-bas pour juger le monde, mais pour lui annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, et vivre cet amour envers les autres. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour dire aux autres, oh, tu ne connais pas Jésus. T'es mal, hein? Moi, je le connais, moi, je suis un mec bien, mais toi, t'es vraiment une cloche, hein? Encore la cloche. Non, mais... Nous sommes tous prêtres de la Nouvelle Alliance, tous, sans exception, les femmes aussi, hein, c'est bon de le répéter. Mais savons-nous encore ce que ça signifie ? C'est quoi un prêtre, en fait ? Même dans l'Ancienne Alliance. Hein. Ben, le prêtre, c'est le représentant de Dieu auprès des hommes. C'est ça, un prêtre ? Le représentant de Dieu auprès des hommes. Et des hommes, parce qu'il dit quelque chose, là c'est le côté prophétique, et des hommes auprès de Dieu. Parce que nous sommes dans l'intercession. Vous avez un ami qui ne connaît pas Jésus, vous l'aimez, cet ami, il ne serait pas votre ami. Vous allez non seulement lui parler en tant que représentant de Dieu auprès de lui, mais vous allez prier pour lui, pour que Dieu se révèle à lui. Et vous allez intercéder. Vous allez donc le représenter auprès de Dieu. C'est les deux courants, mais ils sont indissociables de la notion de prêtrise. Parce que notre service est celui de la réconciliation. Nous sommes là pour servir d'instrument de réconciliation entre le monde qui ne connaît pas Dieu et Dieu. Nous sommes, comme disait Paul dans un autre texte, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Alors, quand on remplace tout ça, la vraie vie que produit en nous l'Esprit, par des succès d'années, des ersatz religieux, plutôt que d'être un outil, un canal de communication entre Dieu et les hommes, on se considère alors comme un filtre à l'entrée dans la vie spirituelle. On devient un gardien d'une doctrine sainte. Et on dit aux autres s'ils peuvent entrer ou pas. Les pharisiens, c'est très simple. Tu changes ça, 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 ça et ça, tu deviens conforme à nos valeurs et tu peux venir. Jésus dit quoi ? Moi, je te prends comme tu es. Je t'aime comme tu es, je te prends et je te change. Mais je t'accepte comme tu es. C'est exactement l'inverse de l'évangile. Et quand on est dans ce dispositif où on sélectionne à l'entrée qui peut rentrer dans le royaume, et on fait ça parfois, encore une fois inconsciemment, mais on le fait parfois, on en est même fier. Ah, je lui ai dit, hein, alors qu'on devrait pleurer quand ça se passe. Toujours Jésus, ce même chapitre 23. Rappelez-vous, hein, un pasteur avait dit, malheur aux pharisiens hypocrites, il pouvait dire, aïe, tu es pharisien, aïe, 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 tu es pharisien. Malheur à vous, spécialistes de la loi, donc enseignants de la loi de Dieu, et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. parce qu'ils les transforment à leur image à eux, ces postulants à l'entrée au royaume. Jésus avait bien perçu le danger de tout ça, empêcher les gens d'entrer dans la famille de Dieu en les faisant passer par toute une série de filtres identitaires. La prétention de ces personnes est donc de dire « Regardez simplement les gens et vous saurez qui est une brebis et qui est une chèvre. » Même dans les églises, hein, il n'y a pas de cravate. C'est pas un bon chrétien. Est-ce qu'il est seulement converti? Il aurait compris s'il était converti qu'il devait mettre une cravate. J'exagère à peine. Hein. Ou une certaine époque, dans certaines églises, ça existe encore. Elle est chrétienne, mais elle ne porte pas de voile. Si elle était vraiment une chrétienne, elle porterait un voile. Qu'est-ce que Dieu s'en fout des voiles? Oh là 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 là, si c'était le seul problème, mesdames, mais si le fait de porter un voile ou de porter une cravate transformait intérieurement quelqu'un, mais j'aurais 10 000 cravates, hein, j'en porterais même la nuit en guise de pyjama, hein, si c'était ça le chemin. Si c'était aussi simple que ça, comme une petite fille à manger, t'as des longs cheveux pour ressembler à Jésus, genre ma chérie, si seulement ça pouvait suffire pour ressembler à Jésus. Mais non. Donc ne laissez pas pousser vos tifs pour ça, ça ne sert à rien. Je l'ai fait, ça ne marche pas. Regardez simplement les gens et vous saurez qui est une brebis et qui est une chèvre. Vous savez, selon cette parabole de la fin des temps où Dieu sépara les brebis, ses brebis des chèvres. C'est ça la pseudo-transformation. Et je rappellerai pour l'anecdote, même si ce n'en est pas une, hein, que Jésus, selon ce modèle, était lui aussi une chèvre. Et ne faisait pas partie du royaume de Dieu pour la grande majorité de ses contemporains parce qu'il ne respectait aucun marqueur identitaire de son temps et ne jugeait personne sur l'obéissance stricte à ces marqueurs. Les prostituées, forcément, étaient exclues de ces marqueurs, ne pouvaient pas les vivre. Eh bien, c'est avec eux que Jésus passait du temps. Idem pour les collecteurs d'impôts, les voleurs, enfin, tous des gens vers qui nous n'allons pas non plus. Précision. Personne n'a un appel missionnaire pour aller évangéliser les prostituées. J'en ai connu. Ils consommaient, quoi. Mais c'est dramatique, hein, mais ça existe. Hein. Jésus ne respectait aucun marqueur identitaire. Il était stigmatisé à cause de ça et il était considéré comme un buveur. C'est comme ça que les pharisiens le considéraient, comme un buveur et un ami des gens de mauvaise vie, alors qu'il était le Fils de Dieu. Jésus ne focalisait pas son attention sur ces marqueurs, sur les contours extérieurs d'une pseudo-transformation, mais sur le cœur du message de Dieu pour l'homme. Je termine. Dallas Willard, un penseur chrétien, disait « La spiritualité mal comprise ou poursuivie est la source majeure de la misère humaine et de la rébellion contre Dieu. » Parce qu'il est évident que si vous vivez uniquement votre foi d'une manière superficielle et par rapport à ces fameux marqueurs identitaires, vous ne vivrez pas la vie chrétienne du tout, parce que ces marqueurs auront remplacé la vie de l'esprit. Alors nous verrons dans 2 semaines, puisque je rappelais que dimanche prochain nous aurons la visite de Audrey Torini, nous verrons dans 2 semaines à quoi ressemble la vie spirituelle lorsqu'elle est vécue et définie par son véritable centre, afin que nous puissions comprendre en quoi consiste, aux yeux de Dieu, la véritable intégrité, qui est donc une des valeurs de notre Église. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.